Bonjour à tous. Alors, je pense que vous êtes au courant, nous sommes en plein JO de Londres. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver quelque chose pour introduire le culte de ce matin, cette circonstance. Alors, je me suis souvenu d'une petite histoire qu'on m'a racontée il y a pas mal de temps. Alors, je ne me souviens plus du tout de qui me l'a racontée, de quelles étaient les circonstances ou quoi que ce soit, mais je me suis souvenu de cette petite histoire qui se passe donc durant des JO. Et c'est l'histoire de plusieurs athlètes handisport. Alors, pour ceux ou celles qui pourraient ne pas connaître, les athlètes handisport sont des sportifs ayant un handicap moteur, un handicap physique. Et un jour, une course de fauteuil roulant se prépare. Alors, les fauteuils, les personnes s'alignent, les athlètes s'alignent, et puis le coup de pistolet marque le début de la course. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu une course de fauteuil roulant, c'est très impressionnant. Ça va beaucoup plus vite qu'on pourrait le croire, et alors les gaillards ont des bras. Impressionnant. Lors de cette course, un des athlètes sort un peu, légèrement du couloir, et là, sans le vouloir, il bouscule un adversaire qui du coup tombe. Tous les coureurs ont vu ou compris ce qui venait de se passer. Après une bonne dizaine de mètres, le fautif stoppe son fauteuil et donc choisit de se disqualifier, fait demi-tour pour se rapprocher de son adversaire au sol et l'aide du mieux qu'il peut pour l'aider à se remettre sur son fauteuil. Mais ce n'est pas fini. À la vue de ce geste, un autre athlète s'arrête pour donner un coup de main. Puis un autre. Puis encore un autre. Et finalement, c'est l'ensemble des coureurs qui retournent en arrière. Et nous, sommes-nous capables de laisser de côté les choses qui nous tiennent à cœur pour faire marche arrière afin d'aider celui que nous avons fait tomber? Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu et je lirai au chapitre 5. Donc dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, je lirai dans la Tobe du verset 23 au verset 26. Voilà ce qui nous est dit. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens ensuite présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge au gendarme, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. L'importance de la réconciliation. Combien de fois sommes-nous allés prier à l'église alors que, durant la semaine, nous avions dit ou fait quelque chose dans un esprit de colère? Combien de fois sommes-nous entrés en communion avec Dieu alors que nous avions les mains sale. Ici, Jésus pointe du doigt un réel problème dans la vie des chrétiens en général. Il est si simple de prendre du temps avec Dieu, d'aller à l'église, d'écouter le pasteur nous parler de doctrine, et j'en passe. Mais bizarrement, il est si difficile de s'arrêter en cours de route, de tourner les talons et d'aller voir celui que nous avons blessé pour lui demander pardon. Si difficile. Alors il arrive que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre qu'il n'est pas content de nous, qu'il n'est pas fier de ce que nous avons fait à telle ou telle personne. Et cela pèse parfois sur notre conscience. Jésus, dans ce passage que nous venons de lire, nous demande alors de ne pas résister, de ne pas vouloir continuer notre petit train-train de vie avec Dieu alors que nous avons fait du mal à un frère ou à une sœur, et de façon volontaire ou non d'ailleurs. Nous ne devons pas résister à l'extraordinaire sensibilité de l'Esprit de Dieu qui veut nous éduquer jusque dans les moindres détails. Alors, arrêtons-nous pour mieux repartir. Si une personne fait du tort à une autre, dans un excès de colère ou pour toute autre raison, il est inutile qu'elle vienne apporter son offrande à Dieu. Le Seigneur ne l'acceptera pas à sa juste valeur. L'offenseur doit d'abord aller se réconcilier avec l'offensé. Après quoi, son offrande sera acceptable. Alors, bien que ces paroles s'inscrivent dans un contexte juif, elles n'ont rien perdu de leur actualité. Dieu, aujourd'hui notre Dieu, n'accepte pas la louange d'un chrétien qui est en froid avec son prochain. Un jour, un des pasteurs qui nous donnait un cours de développement spirituel à l'Institut biblique nous a enseigné ceci. Tout comme un chirurgien se lave les mains soigneusement avant d'opérer un patient, lavons-nous soigneusement les mains avant de nous présenter devant notre Père Céleste. Oui, tout comme un chirurgien se lave soigneusement les mains avant d'opérer un patient, lavons-nous soigneusement les mains avant de nous présenter devant notre Père Céleste. Ce n'est pas seulement une question de sainteté, pas seulement, mais aussi une question de respect envers celui qui cherche chaque jour à nous rendre meilleurs que ce que nous sommes actuellement. C'est pourquoi nous avons le devoir d'aller voir notre frère ou notre sœur qui souffre à cause de nous, simplement pour lui demander pardon, afin de permettre à une réconciliation, afin de permettre à la reconstruction d'une relation brisée, souvent due à un péché. Alors, il faut noter dans ce passage qu'il n'est pas question de savoir qui est fautif ou qui est le plus coupable, qui a commencé ou qui a continué, ni qui a péché le plus ou qui souffre le plus. Non. Jésus, dans ce passage, nous enseigne la place de la réconciliation dans notre vie spirituelle. Alors, toute l'ampleur de cet enseignement nous saute aux yeux quand on sait que Jésus parle à un public, enseigne un public qui pour beaucoup venait de loin présenter son offrande devant l'autel à Jérusalem. Alors maintenant, imaginons. Imaginez, vous faites un long voyage de 2 jours avec le bœuf que vous avez l'intention de sacrifier sur l'autel pour le Seigneur. Arrivé sur place, vous allez au temple, vous préparez l'offrande, hein, juste avant de le préparer sur l'autel, de le présenter sur l'autel. Et Jésus vous arrête et vous dit, « Laisse ton offrande ici et retourne chez toi. Refais 2 jours de marche pour te réconcilier avec ton frère. Et puis reviens, refais de nouveau 2 jours de marche pour présenter cet animal sur l'autel. » Si donc nous nous apercevons qu'un de nos frères se croit offensé par nous, de n'importe quelle manière, nous avons le devoir de lui tendre une main de réconciliation. Tant que nous ne l'aurons pas fait, Jésus n'admet pas que nous portions nos prières devant le trône de la grâce. Quelle que soit la difficulté, et Dieu sait à quel point cet enseignement nous est difficile, la recherche de la réconciliation doit être prioritaire. À combien plus forte raison, nous qui n'allons pas à Jérusalem pour le culte du dimanche matin, nous avons le devoir de retourner voir notre frère ou notre sœur afin de lui demander pardon. Nous n'avons pas d'excuse de ne pas écouter l'Esprit qui nous rappelle nos péchés. Non, nous n'avons pas d'excuse pour ne pas aller voir celui que nous avons fait tomber. Quel athlète aurait-il été s'il n'était pas revenu sur ses pas pour aider celui qui l'avait fait tomber ? Jésus n'admet pas qu'un homme rentre en communion avec son Père s'il n'a pas recherché la réconciliation avec celui qui l'a offensé. Ce n'est qu'après m'être arrêté et avoir demandé pardon que je pourrai alors me présenter devant Dieu. Oui, il y a un ordre que Jésus nous enseigne. Et cet ordre, Jésus met en premier la réconciliation, avant la louange, avant la prière, avant l'adoration, avant l'écoute de la prédication. D'abord, la réconciliation. Il est important de demander pardon, tout comme il est important de l'accorder aux autres, d'accorder notre pardon à celui qui nous le demande. Ne pas accorder notre pardon à celui qui nous le demande est cause de relations brisées, abîmées, erronées. Tant avec notre frère qu'avec notre Dieu d'ailleurs. Ne pas accorder notre pardon vient altérer notre santé spirituelle de la même façon que le péché brise, brouille ma relation avec Dieu. Quel athlète aurait été celui qui est tombé s'il n'avait pas accepté l'aide de son adversaire? Pour que cette relation soit rétablie, il me faut reconnaître mes torts et demander pardon envers qui nous avons péché. Ce n'est qu'à ce prix-là, qu'au prix de la réconciliation, que Jésus nous demande ensuite de présenter notre offrande dans la simplicité et la joie. L'un n'a pas plus de valeur que l'autre, mais il y a un ordre des choses. Toutefois, Jésus nous appelle à une prompte réconciliation, sans tarder, sans lambiner, sans tourner autour du pot. Et c'est cela que Jésus aborde dans ces deux versets suivants. Agir promptement. Alors, plusieurs interprètes lisent ce passage comme étant une parabole. Alors, c'est intéressant. Et Jésus ici, d'après les interprètes, parlerait d'un chemin d'une façon imaginaire, d'une façon symbolique. Une parabole qui met en avant la responsabilité que l'on a devant Dieu sur le chemin de la vie, qui aboutira au jugement dernier. Dès le commencement de notre vie, nous sommes en marche, nous sommes en mouvement vers le jugement dernier. Et notre récompense finale sera évaluée d'après la marche que nous aurons faite avec nos frères et nos sœurs. Il nous sera demandé des comptes de la marche que nous aurons eue. C'est pour cela qu'il nous faut nous réconcilier maintenant que l'on a encore le temps. Dès à présent, car qui sait quand la fin de la marche arrivera? Et peut-être arrivera-t-elle demain? Peut-être même cet après-midi? Et pourquoi pas avant la fin du culte? Dans ce passage, Jésus nous met en garde contre l'esprit rancunier, contre la lenteur à admettre nos torts, contre la personne qui rumine chaque jour un péché passé, qui n'admet pas ses torts. Et Jésus nous dit, nous devons nous dépêcher. Dépêchez-vous. Alors Jésus nous donne deux raisons importantes pour rechercher une réconciliation rapide. D'abord, toute affaire non résolue est un obstacle à la communion avec Dieu. Si je ne suis pas prêt à me réconcilier avec mon frère, Dieu n'est pas prêt à accepter mon adoration ou mon service. Et cela doit être résolu rapidement. Et puis, deuxièmement, toute offense contre un autre, si elle n'est pas réglée rapidement, empoisonne les relations et mène à d'autres troubles plus graves encore. Imaginons que notre athlète restait dans la course, finisse et pourquoi pas gagne la course. Imaginons la rancœur de celui qui est tombé, de l'athlète tombé par sa faute. Le but de Dieu, comme nous l'avons chanté ce matin, le but de Dieu est de nous rendre purs, innocents, sans tache, semblables à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous persistons à ne pas voir les choses en face, nos péchés nous rattraperont et pèseront lourd sur nos épaules. Il y a quelques années, j'ai subi d'une personne quelque chose de très difficile lors d'un camp. Après mensonge sur mensonge de sa part, j'ai fini le camp, j'étais brisé. Et les vacances terminées, je me suis dit, laissez tout ça de côté et puis basta, hein. On va continuer à vivre. Ce n'est pas la fin du monde. Et puis, 2 années plus tard, j'étais en 2e année de théologie. Et en tout début d'année, on a une retraite. C'est un intervenant qui va venir, qui vient, qui nous fait une prédication. Et là, en l'occurrence, c'était à l'instant, pour ceux qui le connaissent, qui vient et qui fait une prédication qui m'a beaucoup remué. Beaucoup, beaucoup remué. Et après quoi, j'ai souffert pendant 6 mois parce que la blessure que j'avais laissée de côté s'était réouverte. Alors le Seigneur a travaillé les cœurs et il a bien fait les choses. Il a travaillé le cœur de cette personne. Et sans que je m'y attende, cette personne est venue vers moi pour me demander pardon, 2 ans après. Et je me souviens, c'était un mois de février. Donc ça m'a marqué. Alors ce n'est qu'après avoir accordé mon pardon. Ce qui, pareil, c'est un travail personnel. Hein. Il faut accepter les choses, il faut digérer. À partir du moment où je lui ai accordé mon pardon, j'ai pu sortir la tête de l'eau et me reconstruire petit à petit, progressivement. Ça a pris du temps. Mais ça s'est fait. Et le Seigneur était là, présent. Si nous avons tort, soyons prompts à le reconnaître et à agir en conséquence. Ne laissons pas traîner les choses. Parce que mon péché peut être lourd pour celui qui souffre. Et même si cela nous coûte, même si c'est difficile ou douloureux, nous devons admettre nos torts. Nous devons reconnaître que dans telle ou telle situation, nous avons eu tort. Nous sommes encouragés, et le Seigneur nous encourage dans ce passage, à reconnaître nos péchés. Sans réconciliation, le procès suivra son cours. Et nous devrons payer jusqu'au dernier centime. Le tribunal céleste finira par découvrir notre culpabilité et nous condamnera à payer. Le centime dans ce passage est l'image de la dette. Selon les interprètes, nos péchés nous endettent face à Dieu. Dans un sens littéral, nous pouvons payer nos dettes. Mais dans un sens spirituel, après le jugement de Dieu, nous ne pourrons plus jamais le faire. Après son retour, nous ne pourrons plus payer nos dettes en cours. À cette époque-là, à l'époque de Jésus, il était fréquent que des problèmes d'argent soient à l'origine d'une dispute. Et il arrivait alors que le débiteur soit emprisonné. Jusqu'à ce que ses proches aient payé sa dette, ce qui risquait de causer de méchantes affaires de famille. L'illustration de Jésus a pour but de souligner la nécessité urgente d'une réconciliation quand elle est possible. Et je précise, quand elle est possible, parce que ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Il arrive parfois que nous fassions tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous déposons notre offrande devant l'autel. Nous retournons en arrière, nous allons voir celui que nous avons blessé pour lui demander pardon. Et nous le faisons promptement et sincèrement. Mais notre frère ne nous accorde pas son pardon. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus de notre ressort. Ce frère s'attire sur lui-même une condamnation qui lui est propre. Mais nous avons fait notre devoir. Nous avons obéi à l'enseignement du Seigneur. Nous sommes allés voir celui que nous avons blessé pour lui demander pardon. Et Si je n'avais pas pardonné cette personne, si je ne lui avais pas accordé mon pardon, mais j'aurais souffert encore, j'aurais continué à souffrir. Nous avons mis en pratique l'enseignement de notre Seigneur quand nous demandons pardon, quand nous accordons pardon, notre pardon. Et lui qui est juste tiendra compte de cela le jour du jugement. Il verra toutes ces fois où nous sommes retournés en arrière, laissant de côté ce qui nous tenait à cœur, pour aller demander pardon à celui que nous avons fait de tomber. Il s'en souviendra. Alors, j'en viens, et je terminerai avec la conclusion. La qualité de la relation que l'on a avec Dieu dépend de la qualité des relations que l'on a avec nos frères et sœurs. Et la croix du Christ peut être l'image de cela. Nos relations avec les hommes et la relation, notre relation avec le Père. Pour que l'une et l'autre tiennent solidement, il faut que nos relations soient en bonne santé. La qualité de la relation que l'on a avec Dieu dépend de la qualité des relations que l'on a avec nos frères et sœurs. Alors, je ne sais pas si cette année, au JO de Londres, nous aurons l'occasion de voir des situations aussi puissantes que celles présentées en début de prédication, mais ce qui est certain, c'est que des années plus tard, ce geste de réconciliation peut rester dans les mémoires. Le pardon est un puissant remède contre les blessures profondes. Alors, n'hésitons pas à l'utiliser ou à l'accorder. Amen.